France Bleu RCFM. France Bleu.
Yeah. Help.
Help.
Alors tout le monde, nous allons jouer le jeu de Top Top.
RCFM, 17h-18h, Marie Bronzy.
Top Top.
Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur RCFM et dans votre émission Toc Toc, nous sommes ensemble jusqu'à 18h et c'est Jean-Charles Marcille qui m'accompagne ce soir.
Bonsoir, bonsoir Isabelle, pardon Marie.
Marius Marcille.
D'accord.
Jean-Charles, oui. En cette période de carême, pour les
chrétiens...
Que nous
suivons attentivement,
non mais moi je suis très intéressée, et puis évidemment viendra la période pascale, j'avais très très envie... Mais que l'on parle de tout ça et qu'on explique.
Oui, puis qu'on pose des questions que les gens peuvent se poser éventuellement dans la rue, avec un invité tel que celui que l'on va vous présenter dans quelques secondes. Je pense qu'on va avoir de belles réponses.
Ah ben, je l'espère, en tout cas. Allez, c'est parti. Bonsoir, qui est là ?
Pierre-Jean Franceschi, Pierre-Jean Diacre, plus simplement.
Pierre-Jean Diacre.
Pierre-Jean Diacre.
Vous avez d'ailleurs une page Facebook, enfin une...
Oui, oui.
Où vous vous appelez Pierre-Jean Diacre.
Et où je m'appelle Pierre-Jean Diacre.
Merci infiniment.
Merci beaucoup.
D'avoir accepté l'invitation. C'est un plaisir. Alors, on a plein de questions à vous poser. C'est pour ça que vous êtes ici. Et on vous prévient, certaines questions, voilà, sont vraiment naïves, complètement profanes. Et c'est pour ça qu'on a eu envie que vous soyez à nos côtés. Je le disais, c'est la période du carême. En ce moment. Est-ce que le carême vient des fameux 40 jours dans le désert de Jésus ?
C'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est 40 jours qui sont donnés donc aux chrétiens pour se préparer à cette fête super importante pour la vie liturgique. Et pour les chrétiens que nous sommes, elle nous prépare à la fête de Pâques, qui est la résurrection et le Christ vivant au milieu de nous.
Donc ces 40 jours arrivent juste après le Mardi Gras, évidemment, où l'on fait ripaille, on festoie. Carnaval, ça vient du latin.
On a travaillé, vas-y, dis-le, c'est vrai.
Ôter la viande. Non mais je me suis souvent posé la question, parce que je fais Mardi Gras, mais pas le jeûne des 40 jours après. Et puis arrivera évidemment la période très importante, qui est la période pascale, on en parlera avec vous. Est-ce qu'on dit Pentulaciu?
Oui, on dit Pentulaciu.
On va essayer de découvrir un petit peu Pierre-Jean, parce que pas tout le monde le connaît. Vous connaissez énormément de monde, hein, en Corse.
Vous croyez?
Ah oui, beaucoup de vous connaissent, mais peut-être pas tout le monde, donc on va peut-être resituer un petit peu.
Pentulaciu, qu'est-ce que ça veut dire?
Pentulaciu, ce sont les habitants de Pantelegazinca.
C'est ça, c'est ça.
D'où vous êtes originaire?
Non seulement je suis originaire, je suis natif de Pantelegazinca, j'y vis. J'ai l'habitude de dire que je suis né à Pinte, j'ai grandi à Pinte, je travaille à Pinte et je vis à Pinte.
Alors, vous
c'est
êtes...
un superbe village. Honnêtement.
C'est le plus beau.
Le plus beau Noisome, c'est quand même un très très beau village. Voilà.
Alors on le disait, vous êtes diacre.
C'est ça.
Est-ce qu'un diacre est rattaché à une paroisse?
Oui. Un diacre, il fait partie intégrante de l'église à laquelle il a été ordonné. Donc moi, pour le coup, je suis ordonné dans l'église qui est en Corse. Et j'ai pour mission d'être rattaché à l'église de Saint-Jean de Bastia. Donc l'évêque d'Ajaccio, Mgr Olivier de Germay, m'a envoyé donc sur ce territoire qui est la paroisse de Saint-Jean de Bastia.
Avant d'être diacre, vous avez été aumônier ?
Non, c'est-à-dire que j'ai été, dès mon ordination, j'ai été aumônier. La première mission que j'ai eue, qui a été la mienne, c'est d'avoir été aumônier de la prison de Borgo.
Sacrée expérience, plus de 10 ans.
Pendant une dizaine d'années,
oui. Plus de 10 ans, et c'est la plus belle expérience que j'ai pu avoir aujourd'hui de mon ministère.
Racontez-nous.
Ah oui, il faut que vous nous racontiez.
Comment vous êtes retrouvé à la prison de Borgo?
Alors, je me suis retrouvé à la prison de Borgo, envoyé par l'évêque, comme aumônier. J'ai rencontré des hommes qui m'ont appris et qui m'ont je veux dire, fait voir l'humanité d'une manière autre. Ou en tout cas, de voir l'homme d'une manière autrement. Dans ces endroits où on est censé y voir un peu les rebuts de la société. La prison, c'est un endroit où on enferme des gens. Et là, j'ai découvert des hommes.
Les déclassés, en tous les cas, pendant
un
temps.
Ouais. Voilà. Mais là, j'y étais pas surpris, parce qu'on n'est jamais surpris, mais enfin, j'ai été quand même assez interpellé, de trouver là des hommes, des vrais. Des hommes qui...
Avec un passé lourd, certains. Pour
souvent,
certains, ils avaient eu même commis des meurtres,
oui,
je crois.
Oui, hein, voilà. Oui, c'est ça, c'est ça. Et qui pourtant, je dirais... En ce qui me concerne, me donnait presque des leçons de vie.
Il faut développer, là.
Alors, des leçons de vie, c'est... Vous savez, dans l'Église, on est appelé à témoigner de l'Évangile. C'est-à-dire avoir le souci de l'autre, vivre quelque chose avec l'autre, aider l'autre à se tourner vers l'autre, et ne pas se retourner sur lui-même. Et dans ces endroits, donc, j'ai vu des hommes qui vivaient l'Évangile à la manière des hommes. au-delà de l'acte qu'ils avaient posé, qui était répréhensible et qui les faisait aller dans ce lieu. Mais dans leur quotidien, j'ai vu vraiment des hommes vivre leurs conditions humaines à la manière des hommes, en se tenant à l'écoute de celui qui était son voisin, en partageant le quotidien de leur vie. Pas seulement, je dirais, le superflu, mais c'était souvent l'essentiel. J'ai vu dans ces endroits des hommes préparés avec les rudiments, des méthodes, enfin des moyens rudimentaires, préparer donc un repas du soir où ils avaient une place, où ils avaient une assiette pour celui qui n'avait rien dans l'unité. Et ça, c'est quand même particulier, ça vous interpelle.
Et est-ce qu'on pense aussi à celui qui a été victime de cette personne-là ?
Pour moi, il y a toujours deux victimes.
D'accord.
Il y a la victime qui évidemment subit, qui est la première victime, et puis il y a celui qui devient une victime par l'acte qu'il pose. Parce qu'on ne sort jamais indemne d'un acte posé. Avec soi, on entraîne une famille, on entraîne une vie.
Il y a des conséquences.
Il y a des conséquences qui
font... Des dommages collatéraux, comme on dit. Ouais.
Voilà, c'est ça. Mmh. Et donc, on ne peut pas être indifférent à tout ça.
Lorsque vous avez démarré cette mission, aumônier à la prison de Borgo, j'imagine que vous deviez être très impressionné, vous êtes posé beaucoup de questions, vous deviez avoir peur, je pense, avoir même le trac.
Absolument. Absolument, c'est pas un endroit dans lequel on va comme ça, comme on irait à la foire, ni comme on irait au cirque, ou on irait tout simplement à un spectacle. Donc j'y allais avec ma propre histoire. Avec
et des a priori aussi ou pas ?
Avec mes a priori, avec mes appréhensions. J'y allais donc avec le regard de tout un chacun qui lit tous les matins le journal et qui voit les faits divers et qui s'insurge envers les faits divers qu'il peut lire, et surtout envers les personnes qui les commettent. Et puis là, j'ai appris à rencontrer des hommes, tout simplement. Et c'est à la rencontre de ces hommes que le fait divers est passé en deuxième plan. C'est dans le quotidien partagé avec eux, c'est dans cette expérience de vie que j'ai eu à vivre avec eux pendant ce temps qui m'était donné de passer donc à la prison, que j'ai pu aller au-delà du fait divers.
Puis la rédemption, elle fait partie aussi de l'évangile, un Dieu qui aime, je dirais.
Ça, bien sûr. Voilà. Ça, c'est bien sûr.
Parce que pas tout le monde est capable d'aimer même celui.
Mais moi, il y a quelque chose qui m'intrigue vraiment lorsqu'on est tourné vers l'autre et qu'on aide l'autre à se tourner vers l'autre. Comment fait-on, Pierre-Jean, pour ne pas trop s'impliquer, pour ne pas sombrer dans le malheur ou dans le désespoir des autres?
Je pense qu'il y a eu des amitiés aussi qui se sont nouées avec certains.
Alors,
peut-être.
Vous savez, ami, on peut le devenir avec tout le monde. Ami, il n'y a pas de barrière.
Bien sûr.
Amitié, il n'y a pas de barrière. Le business, c'est différent, pour employer un terme plus terre-à-terre, je dirais. Bon. Mais rester ami et devenir ami, c'est à la portée de tous. Et j'y ai tissé des amitiés véritables, des liens très forts. Je vous dis encore une fois, des hommes qui m'ont surpris. Quand vous voyez, je vais vous prendre un exemple. Un jour, j'arrive dans cette prison, donc où j'avais, comme on peut en avoir tous et un chacun, un moment difficile à traverser dans ma vie personnelle et tout ça. J'arrive un peu en colère par rapport à une situation que j'avais vécue, qui était somme toute toute relative. Mais vous savez, quand on la vit, la situation, qu'elle est embêtante, elle est embêtante. Donc j'arrive et je me trouve à partager un peu avec quelqu'un qui était mon ami, qui est devenu mon ami, et qui avait un petit passé derrière lui. Et puis je lui dis, tu sais, des fois je voudrais avoir la force, le courage de tuer. On devrait presque avoir la force de tuer. À quoi, mec, d'avoir un ouïe en cul tombé à carc ici.
Même pour un diacre.
Au moins en esprit. Après, bah, pas en acte.
Bien évidemment.
Voilà, pas en acte. Bon, mais dans l'esprit, ça arrive. Il m'a regardé comme ça, et puis il me dit, tu sais, la force, c'est de pardonner. Le courage, c'est de pardonner. Alors qu'un prêtre, qu'un diacre...
Le dise, oui.
Le dise. Que quelqu'un qui vient à la messe tous les dimanches le pense. Pas souvent le cas, mais enfin, ça arrive. ça peut vous interpeller ou ça vous interpelle.
Bien sûr.
Mais quand quelqu'un qui a un passé, qui a tué, qui a un palmarès qui n'est pas facile à porter, vous dit ça et puis vous le dit avec les yeux de son cœur, vous savez, ça vous interpelle. Ça ne vous laisse pas indifférent. Et c'est en ça où ces hommes, je dirais ces hommes, voilà, en général, m'ont interpellé. Et là, j'ai vu que notre société, quelle qu'elle soit, avait une part de responsabilité dans le parcours de celles et ceux qui souvent s'écartent du droit chemin. Voilà. Parce que, vous savez, l'Évangile, il nous demande une chose, regardez le beau, le grand, le vrai. Dans la liturgie des défunts, il y a juste un passage Quand on introduit une célébration d'enterrement, on nous dit « Dieu se rappelle du beau, du grand, du vrai qu'il peut plus avoir dans la vie de cet homme qu'on accompagne aujourd'hui. » Et il nous demande de porter ce même regard. Mais quel regard portons-nous, généralement ? On a le regard qui accuse, oui, le regard qui condamne. On n'a pas le regard de dire « Bon, écoutez, oui, oui, c'est vrai, cette personne a tué, c'est vrai, il a commis un délit, il est répréhensible, mais c'est quand même un homme bien. » Et ça, on ne le dit pas souvent.
Ben c'est toujours le même problème de savoir où est-ce que l'on se place aussi. Si on se place du côté, bien sûr, de l'Évangile, je comprends votre raisonnement, on peut aussi comprendre que pour une famille qui a été victime d'atrocités, la rédemption soit beaucoup plus compliquée. Voilà. C'est normal aussi.
Ça, c'est la famille.
Ça se comprend. Voilà.
Et ça, la famille, je dirais, la personne qui subit un acte, il n'y a pas de mots pour le rejoindre dans ce qu'il vit. Il n'y a pas de mots. Il y a des présences, il y a justement des témoignages d'amitié qui font qu'on peut aider aussi une personne à s'en sortir en lui montrant que l'amour et que l'amitié est plus fort que tout. Quelqu'un, je dirais, qui vit un drame dans sa vie, qui a vécu un drame, qui en a assassiné quelqu'un. C'est vrai que la première réaction qu'on peut avoir, c'est celle de, non pas tendre la deuxième joue, mais de se dire, d'une certaine manière, on veut poser un acte, voilà, répréhensible, qui devient répréhensible. Mais à ce moment-là, est-ce qu'on n'est pas appelé à inviter justement cette personne à regarder avec les yeux de son cœur ? Parce qu'autour d'elle, cette personne, même si elle a subi quelque chose de très dur à vivre, elle a toujours des gens qui l'aiment. Et est-ce qu'elle a envie d'entraîner dans l'acte qu'elle va poser les personnes qu'elle aime ?
Le carême,
ça se comprend.
Le carême est un temps de préparation à la commémoration de la Passion. Donc là, les chrétiens religieux, catholiques, pratiquants, que vivent-ils en ce moment ?
Alors,
outre cette préparation de personnel.
Alors, ils se préparent en communauté. Vous dites les chrétiens, donc c'est généralement en communauté. C'est le dimanche, c'est dans les temps de prière qui leur sont donnés, qui nous sont donnés, pour dire mieux, hein, puisque j'en fais partie de ces gens. Et donc, c'est des temps, si vous voulez, qui nous sont donnés pour, changer nos cœurs. Parce que ce dont on a besoin, c'est changer notre cœur. Et on a besoin en permanence de le changer, ce cœur. Parce que ce cœur, comme on vient de le dire maintenant, est un cœur humain, un cœur qui condamne, un cœur qui juge, un cœur qui n'entend pas, qui n'ouvre pas abondamment les oreilles de son cœur, mais qui a tendance, et peut-être trop tendance, à ouvrir les oreilles humaines, et qui justement nous détourne de ça. Alors ce temps, il nous prépare à ça, il nous prépare à changer notre cœur.
Nous allons vous faire un cadeau.
Ah bon ?
Ah ben oui, nous on est comme ça.
Oui, ben il faut faire des cadeaux, bien sûr.
Mais oui, il faut partager.
À la chanson, vous dites.
Absolument.
Ah, d'accord, oui. Ben, une chanson évidente, hein, étant Diabente, donc Diobaez et Diabente de Gazinc, on a pensé à un auteur, Dion Terramoro, qui était un petit peu au-dessus, hein, Loredo de Gazinc, avec cette chanson qui évoque cette pieve, cette région, ce grenier de la Corse à Gazinc, et c'est interprété par Philippe, et peut-être qu'on parlera de cette Gazinc tout de suite après.
Das antan julin punta e davi un mal a tua golu a gasin casi spera di e instese virduline un mare la carezza dal bidia de durchine Isobaesi, sentinelle di sempre, usfidano il tempo, dananto ai budiali, campanili con chiese. nuova storia. L'amore è so niente. Mi ralli i so paesi. Sentinelle di sempre. Biaia maciosa, sinanu vattu nortu, una terra d'accolta, e terra ferma e pieve, a porte sbalancate, a casin carice. Amicizia e conforto di abbiadia matiosa.
Franceschi est notre invité et voilà une chanson sur la Casinca, ça nous paraissait important et être un joli
évident
cadeau pour
même.
Vous.
Je vous remercie.
Qui êtes de Pintadi Casinca, comme
doublement.
Vous l'avez dit. Oui, vous y êtes né, vous y vivez, vous y travaillez. C'est très important pour vous l'endroit d'où vous venez.
Oui, c'est très important.
Pour quelle raison?
Vous savez, on parle beaucoup de ressourcement et à Pintadi, j'ai même pas besoin de me ressourcer, je suis moi-même. Alors, vous disiez tout à l'heure, c'est difficile de changer quelqu'un, il vaut mieux rester ce qu'on est. On a à s'améliorer, c'est vrai qu'on a à s'améliorer, mais après, il faut qu'on reste ce qu'on est. Et moi, je suis donc un enfant du village. Je suis avant tout, je dis toujours, l'école de la vie, pour moi, ça a été le village, la rue du village. Et pour moi, ça a été très, c'est très important de pouvoir retourner tous les soirs, tous les jours, de vivre dans ce village, parce que il y a bien sûr les gens qui y vivent, et puis il y a toute son histoire, il y a son passé, il y a ses souvenirs que j'ai. Je ne suis pas nostalgique. Hein. Je suis pas
mais
quelqu'un.
Vous êtes considéré comme l'enfant toujours du village, ou le diacre
non,
qui passe voilà.
Ce
n'est pas le même rapport que vous avez avec les gens, j'imagine.
Je suis l'enfant du village, et, voilà. Et puis je reste l'enfant du village.
C'est Pierre-Jean. Voilà.
Je suis Pierre-Jean, Violet Mathieu, et voilà, ce n'est pas un problème.
Vous avez reçu une éducation religieuse?
Pas du tout. Enfin, éducation religieuse, j'entends bien. Mon père, je ne l'ai jamais vu à l'église. Jamais. Il faisait partie de cette génération d'hommes qui n'allaient pas à l'église. Voilà. Alors, il était certainement croyant. Il avait sa croyance à lui. Il croyait. Donc, il croyait en Dieu. Il croyait. Mon père avait une chose qu'il m'a transmise, je crois, et qui m'a transmise d'une façon profonde et vraie. C'est qu'il croyait. Il n'avait même pas l'espérance. Il avait la certitude de retrouver dans la mort tous ceux qu'il avait connus. Et pour lui, c'était une certitude. Il fermait les yeux ici-bas, il les retrouvait, il les ouvrait dans un monde qu'on appelle le paradis dans un langage d'église, mais pour lui, c'était y retrouver les siens. Voilà. Et ça, pour moi, c'est une certitude qui m'habite depuis toujours. Donc ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de peine quand quelqu'un s'en va. On perd une clé, on la cherche. Donc on perd un objet, on perd une personne. On ne peut être que désarticulé. Mais il avait cette certitude. Après, c'était pas du tout des gens qui pratiquaient, ni rien. Bon, mes vieilles tantes, ma grand-mère, elle allait à la messe. Mais pas non plus tous les matins, c'était pas du tout des gens. C'est
pas,
moi.
Pas de biguine, comme on
non,
dit.
Non, mais voilà. Biguine. Voilà. Il y avait une chalagé au vieux bigot depuis l'âge de 5 ans.
Ah, d'accord,
et
quand
pas pourquoi. Et pourquoi, je sais pas.
Mais pourquoi 5 ans?
5 ans, c'est l'âge où on se rappelle un peu.
Voilà, les premiers souvenirs.
Voilà. Premier souvenir, je me rappelle, enfant, mais vraiment tout petit, et on m'avait fait servir la messe, donc j'avais 6 ans, la première fois. Donc je me rappelle de ça, et j'y allais comme ça. J'étais attiré par ça. En plus, J'avais pas un prêtre du tout traditionnel, hein. J'avais un prêtre qui était même très moderne pour l'époque et pour son temps. C'est un homme très ouvert, il jouait au ballon, il avait plein de choses, il n'était pas du tout ni habillé en soutane. Enfin, oui, à l'époque, quand j'avais 5 ans, oui.
Fernandel.
Après, donc, c'était un monsieur qui était...
Qui était-ce ?
C'était l'abbé Jérôme, il s'appelait l'abbé Mathieu Jérôme.
Ah oui, on en a entendu parler.
Donc, c'était un homme qui était... Enfin, un prêtre très moderne, avant-gardiste, je dirais même. Mais je ne sais pas, donc l'Église, j'étais attiré par l'Église. Petit, je vous dis, j'étais tout seul.
À y aller. La rencontre
voilà,
s'est faite assez naturellement.
Voilà.
Alors, il y a une chose que vous m'avez confiée un jour, je ne devrais pas en parler à l'antenne
si
peut-être.
C'était dans le confessionnal, non, hein, je ne sais pas.
Non, pas du tout. D'ailleurs, je ne crois pas qu'un diacre puisse recevoir...
Confesser, on ne peut pas confesser, voilà. Mais... Après, entendant.
Non, mais moi, j'avais le droit de confesser donc Pierre-Jean lors d'une conversation.
Oui, parce que vous avez fait toutes les études.
Non, et vous m'avez confessé que vous aviez généralement le sentiment de penser en langue corse, voire d'écrire en langue corse une homélie ou alors un discours quand il le faut, et de le traduire ensuite en français. C'est vrai,
c'est ça. C'est ça. Je n'irai pas du mal, mais il faut que je fasse un effort si je dois faire une homélie en Corse.
Ah, en Corse, d'accord.
Cela dit, en Corse, aux Olles, on abrigue en Corse, et il faut que je m'y prépare. Alors que je parle Corse et je passe en Corse. C'est ça le paradoxe. Mais peut-être que, à l'église, je ne sais pas, j'ai appris à parler français. Enfin, j'ai parlé à l'église en français.
Ça n'est pas votre langue de l'église, peut-être.
C'est pas ma langue de l'église. Alors que c'est ma langue maternelle. J'ai parlé corse avant de parler français. Je parle corse avant de parler français. Autour de moi, à la maison, dans la rue, avec tout le monde. Mais quand je vais préparer une homélie ou tout ça, j'ai besoin de la préparer. Je la pense en corse. Je la pense en corse. Je vais penser, yaïkwe. Et puis je me la traduis en français.
Voilà. Oui, je me la traduis en français.
Voilà. terminé d'outil orni.
Eh oui, non, mais je comprends.
Donc, il se la traduit en français pour ensuite, s'il va la donner en Corse, se la retraduire en Corse quand même.
Voilà.
Vous voyez la folie
et après, il faut que je me la retraduise en Corse. Et là, ça m'est difficile. Parce que, si vous voulez, l'esprit de ce que je vais dire, je vais me dire en Corse, bien, oui, je le goïgigwe, adia barlan, su terminegui, adia y a penagusi. Bon. Ça y a au spirito. Mais bon, il faut la mettre en forme. Tant qu'en forme.
Mais c'est vrai que l'Église, c'est pas du tout une attaque, c'est juste un constat. L'Église a œuvré indirectement ou inconsciemment pour implanter aussi la langue française auprès de certaines populations. Et c'est pas du tout un reproche, c'est juste un constat. Quand vous dites que c'est la langue de l'Église que vous avez toujours entendue, voilà, parce que votre génération était plutôt de celle-là. Voilà.
Et puis, si vous voulez, je pense que bon. Aujourd'hui, on ne l'a plus tellement. Mais pendant longtemps, je ne dirais pas le complexe, parce que c'est peut-être un terme qu'il ne faut pas employer, ou enfin qu'on emploie un peu trop banalement. Mais je pense que, alors qu'on n'avait pas à le faire, on a eu un peu le complexe. C'est-à-dire que dans l'église de Corse, on se disait que finalement, pour être bien dans l'église, puisqu'on appartenait, on est français, il fallait vivre ce qu'on vivait à Tourcoing, alors que c'était pas du tout ça.
Elle a eu du mal, l'église, à un certain moment, pour accepter, un peu de langue corse. Même aujourd'hui,
d'une certaine manière.
Il y a une évolution quand même, un petit peu.
Mais quand on était petits, nous autres, c'était en latin.
Voilà. Ou en français.
Ouais. Et en français. Mais le problème, il y a qui est qui parle à Gorsu.
Voilà. Oui, quand même, il y en a quelques-uns.
J'ai un carquet où nous m'annonce. Donc, aussi bien des cours sous les monts par là. C'est ma vape, pas ou des adres.
On ne va pas rentrer dans ce genre de disque. C'est pas le lieu.
Il y a des carquets aussi à parler meilleur que l'âge. Aujourd'hui, la difficulté, c'est qu'on a très peu.
Mais le monsieur qu'on a écouté avant, qui a écrit cette belle chanson sur la casine, que Dianter Amoureux, qui en l'occurrence disait « Au gourse body tout ». Voilà, donc à partir de là, je pense qu'il peut tout dire. Mais on va pas. Oui. Voilà.
Pierre-Jean, on revient sur le carême, puisque nous sommes en pleine période du carême. Qu'est-ce que ça signifie ? Est-ce qu'il faut jeûner ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'il faut se priver ? Est-ce qu'il ne faut pas manger de viande ?
Je pense que le carême, c'est un temps qui nous est donné, bien sûr, pour nous priver un petit peu de ce qui est superflu. Ça, c'est une chose. Voilà. Si on peut se priver un petit peu de choses qui nous plaisent plus que d'autres, c'est très bien, c'est parfait. Mais je pense que c'est surtout, au-delà de le terme que j'avais employé tout à l'heure, qui était de changer nos cœurs, c'est poser des actes qui finalement nous interrogent et qu'on ne pose pas facilement dans notre vie.
Savoir, par exemple, prendre cette période pour réfléchir.
Voilà.
Par exemple, sur soi-même.
Pardonner. On a un différend avec quelqu'un. C'est peut-être l'occasion qui nous est donnée de faire un peu le point.
Mais se priver, c'est une manière de penser aux plus démunis, ou c'est une manière de se recentrer sur l'essentiel, de se retrouver.
Une pénitence aussi.
Je pense que c'est plus une façon de se retrouver. Bon, après, évidemment.
Chacun le vit.
Et puis donner pour les pauvres, il n'y a pas un temps. Il y a un temps déterminé. On a tout le temps à avoir le souci des autres et des plus faibles et des fragiles.
Georges de Zerbe est avec nous. Bonsoir, Georges.
Bonsoir Marie. Bonsoir, Pierre-Jean.
Quel plaisir de vous avoir à nos côtés. Alors, ce n'est pas pour parler d'opéra ce soir, quoique on aurait pu, Georges.
On aurait pu en
profiter. Moi, j'avais envie que vous nous parliez de ce mois d'avril et de ces premiers jours d'avril en Corse.
Il n'y a plus trop de lien avec la religion, là.
Bah non.
Quoi que, je ne sais pas.
On ne sait pas.
Il va nous expliquer.
Et puisqu'il y a une légende, me semble-t-il, pour parler de ce mois d'avril, de ces premiers jours d'avril.
Bien sûr. Alors, je vais faire comme Pierre-Jean. A dit bon course au
comme elle a eu pas. Non, mais comme ça vous vient.
Alors, faisons mieux. Alors, notre premier jour d'avril, il y a i prestadici, ou im prestadici, donc quelqu'un, il y a quelqu'un qui prête quelque chose à quelqu'un d'autre, hein, on a bien compris. Quelle qui presta di marzo, ou mese di marzo, et marzo era stato indispettito da un pastore, perché un pastore cantava marzo marzetto ti ne hai con tutti i barzelletti e io me ne sto con tutti i miei agnelletti. Donc il narguait le berger narguait marzo. Et marzo qui était évidemment susceptible, comme nous le sommes souvent, Pepindiga, c'est cosa fatto, pastore? Eh ben, Pepindiga, c'est mars, et andata à trois à Abril, qui venait juste après, puisque c'était la 22 mars, et lui demande, Abril, gentil Abril, prestami tre giorni, ou un guinéaio fera giubente, ou valso biguraggio, c'est-à-dire se repentir le faux berger. Et Abril, choco, imbege di tre, l'iné impresto, otto. Et choco, l'iné impresto, otto. Et donc, effectivement, alors, je pense que il y a, Abril n'est pas mieux que mars, bien souvent, hein, du point de vue du temps, et du froid, et du mauvais temps. Et donc, pour expliquer que Abril, c'est dans la continuation de mars, eh bien, on a trouvé sa village troc qui était...
Bon, il y en a qui, chaque année, quand même, le vérifient. Oui. Hein, ils disent, il va faire mauvais jusqu'à jeudi. Jeudi, on est le 6. Ouais. Donc, la légende, elle est vraie. Hein.
Oui.
C'est vrai, ça peut tomber bien une année ou même plusieurs années.
Donc, c'est une légende, en fait, pour expliquer que le mois d'avril est tout aussi pourri que le mois de mars. Et on est loin de la religion. On est loin de la religion ici.
On est loin de la religion. Mais, alors, je voudrais dire quand même que moi, je vous ai donné ce village trop caroustique, mais tu n'es pas réel.
Il y a plusieurs,
qui campe bien loin, tu n'es pas réel. Il y a plusieurs variantes, et donc, voilà, on en trouve un peu en fonction des...
Même sur le nombre de jours, c'est pas toujours 8 jours, ça peut être un peu moins. Ça dépend des...
Ça peut pas être pire.
Non, 8, c'est le maximum.
Et puis, non, et puis il faut que ça rime chaud, couline, presta, haute.
Bien sûr.
C'est pour les besoins de la rime. Hein. Beaucoup d'ailleurs de nos proverbes sont bâtis comme ça. Hein. Ils n'ont pas un grand sens, mais pour faire plaisir à la rime, on fait des accommodements qui sont pas toujours qui n'accommodent pas toujours la réalité. Mais ça fait rien. L'essentiel, c'est que il y a ce village troc. D'ailleurs, on s'en souvient. Hein, voyez.
Ah oui, Georges, puisqu'on on vous tient et qu'on vous a sous la main, est-ce qu'il se passe des choses particulières du côté de la citadelle de Bastia et de la cathédrale Sainte-Marie lors du carême ou de la période pascale? Est-ce qu'il y a des traditions propres à ce coin de Corse?
Bon, alors, lors du carême, généralement, comme il y a le chemin de croix du vendredi, hein, tous les vendredis du carême, qui dure 40 jours, quadragesima, dit le latin, il y a effectivement le chemin de croix. Et puis le point fort, c'est la semaine sainte, c'est-à-dire et surtout à partir de jeudi saint, vendredi saint, samedi saint et dimanche de Pâques. Ça, c'est le sommet de notre religion. Pas comme partout, parce que la religion, le point central et le plus culminant de la religion catholique, c'est Pâques. C'est la grande fête, ce n'est pas Noël.
Oui, c'est Pâques.
C'est Pâques.
C'est Pâques, voilà. Et donc, qu'est-ce qu'il y a? Il y avait, oui, nous sortions pendant, quand on était petits, on faisait le tour de la citadelle, de toutes les ruelles, on trimballait un tas de casseroles et de pignates. Et puis, tiens, mon oncle, et c'était pour simuler le bruit du
le vacarme
le vacarme des ténèbres.
Oui.
Il y avait la célébration des ténèbres, donc nous sommes dans les ténèbres, donc c'est le chaos, donc c'est le bruit jusqu'à ce que Jésus sorte vainqueur de la mort.
Vous n'alliez pas trop loin, enfant, avec des pétards et tout ça. Il n'y avait pas de querelle avec le prêtre.
Non. Et c'est le reste de l'année, oui, on se tapait sur la gueule allègrement. Mais la semaine sainte, il y avait un climat. Il y a toujours d'ailleurs un climat qui est un climat de prière, de réflexion. Il est différent des autres moments de l'année. Hein. Et puis donc il y avait le chemin de croix. Nous à Sainte-Croix, nous avons le chemin de croix qui dure depuis 5 siècles et que l'on reproduit à l'identique depuis 5 siècles, c'est-à-dire pieds nus avec la cagoule, et l'on porte le crucifix, le très saint crucifix des miracles. Ça, c'est un moment très fort. Et puis on attend que Jésus, avec qui nous prenons une partie des souffrances, ressuscite dans sa gloire et nous entraîne dans la joie de Pâques.
Merci Georges de Zerbi d'avoir été avec nous ce soir. Merci beaucoup.
Mais merci à vous et tante salute à un ami qui se parle de Guziba avec son expérience de la prison. C'est vraiment
oui, c'est touchant. Enfin, c'est...
Ouais,
merci beaucoup.
C'est émouvant.
Vous pouvez lui répondre, hein, Pierre Jean. Hein.
Hey.
Il est.
Oui, vous pouvez répondre.
Bonazère.
Allez, bonazère.
Allez, à presto.
Allez, Georges, merci beaucoup.
Merci.
Alors, voilà, évidemment, je disais comme tout le monde, pour la Semaine Sainte, c'est quand même le point d'orgue pour cette période pascale,
pour
évidemment.
Les
chrétiens. C'est très important. Donc, on a entendu qu'enfants, ça se fait moins, ça, hein, d'aller faire du bruit. On demandait aux enfants, avec les crécelles, avec ce qu'ils trouvaient.
C'est bruit, oui.
Certains, du côté de chez François d'Agrigore, qui réalise cette émission, c'était avec quoi? Avec les...
Des crécelles, des bardards, qui ont erra gagné.
Pour faire du bruit. Bien sûr. Et chez vous, alors?
Alors, chez moi, à Pinte, au village enfant, donc, ces traditions-là ne se vivaient déjà plus. Voilà, elles se vivaient déjà plus. Et il y avait, bien sûr, il y avait le reposoir du jeudi saint, il y avait la petite procession du vendredi saint, mais dans le village, bon. Mais elle se vivait vraiment plus, par exemple.
Et aujourd'hui?
Alors aujourd'hui, elle prend une forme différente. On fait ils font une petite procession, une procession un peu plus grande et tout ça. Mais le constat que je fais, moi qui ai tourné un peu la Corse par rapport à cette Semaine Sainte, à la fois de Sartène à Bastia, en passant par Corté, et puis surtout les villages à l'intérieur, je me suis rendu compte d'une chose. C'est un constat que je fais, qui est personnel, hein, maintenant. Par exemple, il y a 20 ans, quand j'ai été envoyé à une de premières missions, donc en tant qu'animateur de paroissial, je dirais, c'était dans la Castagniccia où j'ai été. Et en Castagniccia, j'ai retrouvé des traditions qui étaient très anciennes. Alors, j'ai mis ça sur le fait qu'il n'y avait plus de prêtres résidents depuis plus de 30 ans. Et du coup, je dirais, les gens qui ont continué ces traditions-là l'ont fait, je ne dirais pas à la manière païenne, mais l'ont fait à la manière traditionnelle, comme ils l'ont toujours fait. Il n'y a aucune modification qui avait été apportée. Du pied d'Igroge, j'en partais pour aller Stazzone, etc.
C'est pas bon pour les prêtres, là, ce que vous dites.
Non, mais là, c'est vraiment... Moi, je connais très bien ça.
C'est le constat que je fais. Moi, c'est le constat que je fais.
C'est un constat terrible pour les prêtres. Quoi. Le fait qu'il n'y ait pas de prêtres, ça signifie qu'on garde les traditions.
Au niveau des traditions, je pense que, si vous voulez...
Ça n'apporte pas de modifications au fil des ans.
Et donc, c'est les endroits où, aujourd'hui, on continue à se rassembler. Alors nous, on dit aujourd'hui, il faut vous rassembler sans prêtres, il faut vous rassembler sans prêtres. Mais pendant une grande période, il y avait des prêtres présents partout. Et donc les prêtres qui ont été présents dans les villages où ils ont été présents, à moins que c'était des villages à très fort caractère, comme Vinsolas, par exemple, c'est pas le curé qui a changé la manière de faire. Non, je prends la Kazinka, parce que c'est un endroit que je connais le plus. Oui. Mais comme les gens avaient une certaine personnalité, et puis une certaine volonté de pouvoir continuer ce qu'ils avaient reçu, ils font la même tradition depuis des siècles. Mmh. C'est-à-dire que le jeudi saint au soir, ils vont à Vescovato. Le curé de Vescovato, qui lui, comme était celui de Pinte, était plus moderne, il avait changé. C'était plus le jeudi saint au soir, c'était plus le vendredi saint au matin qu'il allait, c'était le vendredi saint au soir. Oui. Donc, d'une certaine manière, il a changé une tradition.
Il y a eu une évolution.
Elle a perduré, elle s'est continuée. Bon. Mais dans la plupart des endroits, je dirais, les prêtres ont eu une influence qui était une influence, je dirais, pas négative.
Non, mais j'ai bien compris ce que vous voulez dire.
Du temps. Oui. C'était parce que, si vous voulez, on avait peur dans l'Église que si on ne vivait pas les choses comme on les vivait à Tourcoing, eh ben on n'était pas dans la règle.
Bien sûr.
C'est comme aujourd'hui, si on pense qu'à Versailles, c'est une chose, ou à Toulouse, ou à Marseille, mais la Corse, c'est la Corse. Voilà, on va vivre les choses autrement.
Comment se porte la religion catholique en Corse?
Je pense que la religion catholique en
Corse... On voit que les confréries sont quand même très actives.
Récemment, une a été créée, Annonciade,
et on ne peut que féliciter ceux qui en ont eu l'initiative et ceux qui aujourd'hui donc, ont fait qu'il y a eu ce beau rassemblement, qu'il y a eu quand même une quarantaine de personnes dans un village complètement désert où il y a quand même 40 personnes qui s'engagent. Alors, les uns disent dans la durée, mais aujourd'hui, ils s'engagent. Demain, on verra bien. Aujourd'hui, ils s'engagent. Donc, c'est quand même des gens qui ont pris sur leur temps et qui prennent un engagement. Donc, on ne peut que se réjouir et féliciter ceux qui le font. Moi, je pense que, je dis toujours, je prends l'exemple suivant. Un Corse moyen, il va pratiquer 5 fois dans l'année. Un Corse moyen. Alors, il va pratiquer comment? Il va y avoir la fête patronale, il va y avoir le vendredi saint, ça fait 2.
Bon. Noël, allez.
Allez, tu vas avoir Noël ou Pâques. Ça fait
un 3. Mariage ou deux.
Un mariage ou deux. Voilà, c'est voilà. Ça.
Un enterrement ou deux.
Voilà.
Un baptême.
Ça fait 6 personnes. Ça fait 6 fois, on rentre dans une église. Un Français moyen, un continental moyen, pardon, et il va peut-être rentrer 10 fois dans toute une existence. Mm-hmm. Donc, d'une certaine manière, on a un lien différent. Et puis, je pense
donc
que les gens...
Donc les us et coutumes, les traditions, c'est très important ce que vous dites, participent...
Bien sûr qu'ils participent.
Grandement.
Ils participent grandement. Ils participent au rassemblement, ils font que les gens se rassemblent. Après, c'est à nous de les accueillir. Que demande le pape François? Il demande qu'on aille vers les périphéries. Aujourd'hui, les périphéries, c'est quoi? C'est justement ces gens-là. C'est ces gens qui ne pratiquent qu'une fois par an. C'est les gens qui ne viennent, qui ne sont habités que simplement par un esprit, je dirais, de culture, et pas un esprit religieux. Ce qu'on a tous les dimanches, on a besoin d'aller chercher, son cousti, mon chine piou.
Et votre rapport, Pierre-Jean, avec les autres religions? Parce que je sais que vous êtes très ouvert, que vous rencontrez beaucoup de gens.
Alors, ici, les autres religions, il ne faut pas...
Il n'y en a pas 10 000.
Il n'y en a pas des milliers. Bon, il y a les musulmans. Mm-hmm. Et les musulmans, ils ont leur religion, ils la pratiquent ou ils ne la pratiquent pas.
Vous échangez sur les religions?
Je pense qu'en Corse, de ce côté-là, on n'a pas de difficultés. Parce qu'à aujourd'hui, en tout cas, il se trouve que cette communauté musulmane, elle s'intègre.
Bon, on le voit dans le quartier de Saint-Joseph à Bastia, par exemple.
Elle s'intègre. Ouais. Moi, pour moi, elle s'intègre.
La mosquée fait face à Saint-Joseph.
Oui.
Voilà.
Ouais.
Après, bien sûr, on rencontre des difficultés, mais ça, on va rencontrer des difficultés partout et dans toutes les communautés. On va rencontrer entre les gens des villages, d'un village à l'autre, etc. Mm. Mais je dirais, par rapport à une communauté de religion. Donc après, des juifs, il n'y en a pas, ou très peu. Donc, et ceux qui y sont, ils sont tout à fait intégrés. Après, aujourd'hui, presque, je dirais, la troisième religion, c'est l'athéisme. Et avec cela, c'est tout à fait différent. C'est-à-dire que si on a des gens athées qui... Bon, en Corse, on n'a pas de difficultés. Il ne faut pas exagérer. Les laïcs, on en a. Mais, enfin, quand je dis les laïcs, les personnes qui mettent un accent particulier, je dirais, donc, ils ne sont pas nos adversaires. Parce qu'il y a un moment ou un autre où on a à vivre quelque chose avec eux. Après, vous savez, le plus simple, c'est vivre quelque chose avec les gens. Alors l'évêque, il n'y a pas très longtemps, me dit « À vous, une fois que vous avez dit que vivre quelque chose avec les gens, vous avez tout dit. » Ben, vivre quelque chose avec les gens, c'est simplement se mettre à la portée des gens. Si on arrive dans un village pour fonctionner, pour dire « Voilà, j'ai une célébration à 5 heures, j'arrive, je fais la célébration et je m'en vais. » Ça, c'est pas vivre quelque chose, c'est se poser. c'est arriver, c'est savoir avec qui on a affaire, savoir avec qui on va discuter, dire bonjour aux gens, c'est s'arrêter, aller prendre un café, c'est demander. Et vous savez, moi quand je suis arrivé en Castagniccia il y a 20 ans, j'ai eu le privilège d'aller dans une région comme ça, parce que c'est pas parce que M. Marcy est de là-haut. Hein,
on s'est croisé plusieurs fois. Ouais.
Mais c'est, vraiment, j'ai eu la chance, j'ai eu une chance d'aller dans une région comme ça. Parce que dans cette région, il restait encore, il y a 20 ans, des hommes d'une autre génération, d'une autre culture, d'une certaine manière, et qui avaient le sens de l'accueil, le sens de l'autre, qui savaient faire, et qui ont fait que j'ai pu vivre pleinement mon ministère. Parce que j'ai.
Il y a d'autres régions, juste parce que j'ai eu la chance, moi, d'en faire beaucoup pour, oui. Pour le boulot. C'est vrai qu'il y a beaucoup de régions qui sont similaires dans l'état d'esprit à la Castagne.
Oui, pas pour, voilà. Oui, non, mais bien sûr. Moi, j'ai eu. C'est là
oui,
où c'est
votre propre expérience. Non, mais pondérez vos propos, voilà. Vous avez raison.
Non, mais c'est vrai que. Voilà.
Non, mais c'est pour
c'est
ça.
Son moi, expérience.
Je parle
oui.
De mon expérience.
Bien sûr.
Il y a 20 ans, j'ai été là-bas. Donc, j'ai eu ce privilège-là. Et, mais si je m'étais contenté de monter là-haut et puis de faire une célébration à 15h et puis de partir à 15h30, j'aurais peut-être pas connu quelque chose. Moi, si aujourd'hui, je continue à être appelé dans cette région, c'est parce que j'ai essayé. Je n'ai pas dit que j'ai réussi, mais j'ai essayé de vivre un peu d'humanité avec eux.
Mais c'est pour cette raison que vous êtes ici ce soir. C'est parce qu'à Bastia, vous prenez le temps de discuter, de boire un café. C'est pour ça qu'on avait envie de s'intéresser, évidemment, à cette période de l'année qui est très importante pour les catholiques. Allez, nous avons choisi une année pour vous.
Toc toc, ah oui, c'est son année.
Pierre-Jean, nous avons choisi l'année 2013, le 14 mars 2013. Est-ce que ça évoque quelque chose pour vous ?
Moi j'avais le 13, mais c'est pareil.
Ou le 13 mars, pardon.
C'était, si je ne me trompe, hein, l'année où le pape François a été élu.
Mais oui. Ah, alors, on va se remémorer ce moment ensemble avec cet extrait.
La fumée blanche tant attendue s'échappe de la chapelle Sixtine. Il est 19h05 et l'Église catholique a un nouveau pape. Une heure plus tard, le cardinal français Jean-Louis Torrent prononce la célèbre formule.
Annuncio vobis, gaudium magnum, habemus papam.
Nous avons un pape en français. Mais la foule doit encore patienter avant de découvrir le visage du nouveau souverain pontife. À 20h20, le cardinal argentin Bergoglio fait son apparition au balcon de la basilique Saint-Pierre. Il portera le nom de François en mémoire de saint François d'Assise.
Fratelli e sorelle, buonasera.
Pour ses premiers mots, le premier pape originaire d'Amérique du Sud invite les fidèles à une prière commune.
Avant de vous donner ma bénédiction, je veux que vous priez Dieu de me bénir. Prions en silence, priez pour moi.
Buonanotte e buon riposo.
Le pape François, donc le 13 mars 2013, pour l'élection donc de ce pape, de cet homme d'église argentin. Il sera le 266e pape de l'église catholique.
Et vous l'avez rencontré, je crois.
On l'a rencontré.
Pardon d'avoir coupé.
Et non,
mais c'était la question.
Il y a encore de l'émotion lorsque vous entendez cet extrait.
Oui, il y a encore de l'émotion. Le pape, c'est le pape.
Mais celui-ci, ça n'est pas n'importe quel pape, si je puis me permettre.
Je pense que tous les papes ont marqué en leur temps. Moi, il y a un pape que je n'ai pas connu, hein, mais qui m'a beaucoup marqué, en tout cas dans ses écrits, dans sa manière de faire, c'est le pape Jean XXIII. Mm-hmm. Et lui me rappelle beaucoup le pape Jean XXIII. Voilà. Même si ceux qui sont venus après ont une place importante, Jean-Paul II, Paul VI... Jean-Paul Ier, on n'a pas eu le temps de le connaître bien, mais je pense qu'il aurait marqué aussi à sa manière.
Ah, ça
pas qu'est-ce qui vous plaît chez ce dernier ?
Alors, chez ce dernier, il y a cette proximité qu'il a avec les autres. Et puis, il a ce langage simple. Il a cette humilité en lui qui fait qu'on se sent proche de lui. Et en même temps, il a ces gestes qu'il pose, quand il pose un geste, même un geste, hein, ça devient presque un geste affectueux, ça devient presque un geste familier, ça devient presque un geste attendrissant. Donc, vous me disiez, on a eu à le rencontrer. Oui, j'ai eu à le rencontrer. Bah, évidemment, pas en audience personnelle, hein, puisque le pape, c'est le pape.
Je suis très déçu. Hein.
même si il m'est arrivé souvent de le croiser dans les couloirs du Vatican ou ailleurs, hein, enfin, ou là où il réside. Mais après, donc, on a eu l'occasion de le rencontrer avec une petite délégation de Corse, donc avec le président Talamogne, et puis l'abbé Frédéric Constant. Et
de Porto Vecchio.
De Porto Vecchio. Mais qui est de Casinco, c'est pour ça. Même si on le prête à Porto Vecchio, il est de Vinsolas. Et donc, on a eu l'occasion de le rencontrer. Eh bien, vous voyez là, à travers les quelques mots qu'il a pu échanger, à travers les phrases qu'il a pu faire, mais même là, il a supposé des gestes qui ont été marquants, qui ne vous laissent pas indifférents. Mmh. Voilà, la manière qu'il a de pouvoir poser sa main sur la vôtre ou même de vous embrasser ou de faire une accolade avec vous. Et je pense que c'est quand même... Alors bon, après...
Vous faites souvent le voyage vers Rome ?
Alors, moi j'aime beaucoup l'Italie. J'aime beaucoup l'Italie. C'est l'endroit où je me sens très bien.
Voilà. Pas le seul.
Comme Monsieur Marcy.
Moi, j'adore. Non,
j'ai été à l'Italie. Vous savez, il doit comme tout le monde. Hein. Les Dai, les Lucchesi, bon, mes barils ont un look un peu étranger, ou plus qu'étranger. Et puis, la première fois où j'ai mis les pieds en Italie, je me suis vraiment senti chez moi.
Il y a un monsieur, Pierre-Jean Franceschi, qui a beaucoup marqué les Corses. On va l'écouter.
Qui vous a marqué, j'imagine,
ici.
Aussi.
On imagine qu'il vous a marqué aussi. Il était ici interrogé par vous, Jean-Charles, ou c'est un extrait ?
Non, j'ai eu le grand bonheur de le rencontrer pour faire un reportage pour France 3 Corse à l'époque. Il s'agit du père Olive Tayazouki, que vous avez côtoyé à Saint-Jean, hein, donc à Bastia, au marché. Alors, juste quelques secondes pour le réentendre, et puis on en parle juste après.
Era dando in Ajaccio. E io pensavo che era sempre forse abbastanza giovane per francare il mare e fa come prete militare dando una nuova esperienza. Ci voleva un prete militare a Tarb che era dando con due reggimenti facevano il parascettismo e il geraglio e quello che l'accompagnava deve passare anche lui a Po per fare esobrue e per saltare dell'avion e così fu fatto.
Qu'est-ce qu'il avait, le père Olive, qui touche autant les gens, ou en tous les cas qui ne laisse pas les gens indifférents?
Écoutez, le père Olive, bon, moi je le connaissais, j'ai eu le privilège, je dirais, de le connaître depuis longtemps. Donc je le connaissais parce qu'on avait des amis prêtres communs, donc ça faisait plus de 20 ans, même avant mon ordination, que j'avais eu l'occasion de le rencontrer, donc même à une époque où il n'était déjà plus ici. Et le prêtre, le père Olive, c'était un homme qui savait vivre simplement les choses de la vie avec les hommes. Il a passé exactement 2 années à Saint-Jean de Bastia. Juste 2 années.
C'est pas beaucoup, hein, pas si beaucoup. On réfléchit. Ouais.
C'est pas beaucoup. Il a passé 2 années. Une année, donc, j'étais avec lui. La dernière année, j'étais avec lui. Donc, j'avais été envoyé par l'évêque, là, avec lui. Et le jour de son enterrement, il y a eu toute une ville qui est venue lui rendre hommage. Alors, beaucoup s'interrogent, se disent comment, pourquoi. Moi qui l'ai vu vivre, moi qui l'ai vu exercer son ministère, il a vécu sa condition d'homme, sa condition de prêtre à la manière des hommes, je dirais. Simplement, sans emphase, sans artifice.
C'est quelqu'un qui a été aumônier militaire, qui avait vu les horreurs de la guerre, et ça l'avait bouleversé, et c'est quelque chose qui l'accompagnait également au quotidien.
Certainement, hein. Certainement. Mais il avait aussi ce charisme naturel.
Bien sûr.
Voilà. Moi, il me fait penser en beaucoup de choses à un autre prêtre, un peu comme lui, et qui était aussi originaire de Castagnicciascusa,
Predestra. Ah oui, ah, voilà. Oui. Des Andreux, bien sûr.
Vous êtes flatté ce soir. Votre région est à l'honneur.
Oui, hein, mais était
des hommes exceptionnels.
Je prends le parallèle parce que ils étaient contemporains, ils ont fait leurs études ensemble, ils sont partis ensemble, ils ont vécu beaucoup de choses ensemble. Bon, et Prédestra, il avait aussi ce charisme. Après, il y a eu d'autres prêtres qui ont marqué, bien sûr. Hein, ça, la question n'est pas de diminuer les autres, parce qu'ils ont marqué autrement. Et ils ont marqué vraiment. Mais voilà, c'était deux prêtres atypiques qui ont su, simplement à la manière des hommes, vivre leur ministère de prêtre à la manière des hommes. En respectant le sacré qu'ils étaient appelés à vivre, et puis après en ayant cette grande part d'humanité.
Et puis, Impasta, d'où j'aurais dû des Gultura Gours, vraiment, en Corse.
Dis non. Bien sûr. Magasin Gérin quoi, je te rien
bien sûr, bien voilà, sûr. Gérin
Pinsoa, après des Manouil, après des Hachibré, des Gérin Gourci, qui a une autre manière.
Et juste.
Avant de se séparer, nous avions envie avec Jean-Charles de vous faire écouter quelqu'un que nous aimons beaucoup, c'est André Domine, qui est musicien, qui est chanteur dans le groupe Barbara Wurtun, et qui explique ici comment il a rencontré en même temps la musique et la foi. Vous êtes là, au village de Bizinc.
Oui, je suis tout petit. Donc voilà, ma mère est de Bizinc, et puis le samedi dimanche, je quitte les méandres de la cité Aurore et on se retrouve au patrimoine, au côté paternel, dans les villages, au Bizinc. Et puis j'ai 8-9 ans et j'assiste depuis pas mal d'années, donc la semaine sainte, donc c'est toujours un moment très important pour tout Bizincachi. Et ce soir-là, en particulier, je croise le père Dogne Maudit, voilà. Donc les chantres qui sortent, des hommes.
Quel effet ça vous fait? Vous vous souvenez de ce moment?
Je m'en souviens très bien. Une nuit assez mouvementée, comme quoi j'ai été électrisé et choisi, j'en sais rien. Et blague à part, voilà, ça a complètement chamboulé mes sens. Et quoi, 3-4 ans plus tard, je sortais de cette église et je chantais moi, le Père Dogne Maudit. Voilà, et ça a été le début de l'aventure vocale, spirituelle, engagement. Créer le besoin de... C'est même pas pour l'autre, une semaine sainte, c'est pour soi, c'est sa propre déconstruction, c'est très artistique en fait. On se détruit pour mieux se régénérer.
Je ne sais pas si vous avez envie de réagir à ce que nous venons d'entendre, mais c'était pour montrer l'importance de cette tradition et de cette semaine sainte chez nous.
Elle interpelle la semaine sainte. La semaine sainte, quand on participe à une procession, quelle qu'elle soit, dans quelque lieu que ce soit, et qu'on sait regarder l'autre, pour le coup, on ne peut pas être indifférent à ce qu'il porte.
Voilà.
Merci beaucoup.
Et tu arrives à la conclusion.
Bah oui, merci Pierre-Jean d'être venu nous voir au micro.
Je peux juste saluer votre frère, parce qu'il est un ami, voilà Jean-Marc, bonjour.
Il connaît la Castanitch?
Oui, bien sûr qu'il la connaît.
Merci beaucoup, et puis merci aussi à Georges de Zerbe qui est venu nous faire un petit coucou, à François d'Agrégorio qui est confrère, tout comme André Domine, dit que nous entendions.